Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Au terme de ce petit parcours, on peut se demander s'il y a une constante dans cette succession d'histoires plus ou moins sordides que j'ai évoquées pendant ces trois dernières émissions. Alors qu'au XVIIIe, on cherchait à émouvoir, plus encore offrir des airs étourdissants sans préoccupation sociale notable. Tout au plus, on célébrait le bon monarque, le despote éclairé, comme le sultan qui renonçait à ses amours au profit des jeunes gens qui s'aiment, ainsi dans l'enlèvement au sérail ou les ânes galantes. Les séductrices sont le fondement même. Un auteur a même dit le suc de l'opéra. Déjà Poppée, dans le couronnement de Poppée de Monteverdi, exalté dans un même chant sexe, meurtre et pouvoir. Aimée et désirée par Néron, elle sera la cause de la mort du philosophe Sénèque, de la répudiation de l'impératrice Octavie. On écoute Purtimiro, qu'elle chante avec Jarouski. Suivi les enchanteresses maléfiques de l'opéra baroque. Armide, Phèdre, Médée. Puis les courtisanes du XIXe siècle, plus fragiles et humaines, dont Carmen est en quelque sorte l'antidote absolu. En filigrane, le seul endroit où la femme peut sans danger mener l'homme à sa guise appartient à la comédie ou la parodie. Et là, on pense immédiatement à toutes ces soubrettes rouées manipulatrices dont on a parlé, de Pergolèse à Mozart, la liste des coquettes sans morale et sans cœur. On les a vues jouant avec rouerie et talent les faux notaires. Au XIXe siècle, en revanche, l'opéra était d'abord un lieu de représentation sociale pour la bourgeoisie triomphante. Il fallait se faire voir. Une société dominée par les hommes, où les femmes se divisent en deux camps. D'un côté, épouse, mère de famille, féconde, mais qui n'aime pas ça, frigide, et par désignation, presque par vocation, inapte au sexe. De l'autre, la courtisane, libre de mœurs, sensuelle, libertine, par vocation, inapte au mariage. Cette dernière, c'est Manon, immorale dans l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Un siècle plus tard, le compositeur Massenet, nous l'avons vu, en fera une ingénue au cœur léger, rêveuse et impulsive, coquette, incapable du bien comme du mal qu'elle ne distingue pas, incapable d'aimer peut-être aussi. Manon triomphe et vit pour l'argent et le plaisir. Marche en reine de beauté sur tous les chemins, comme le proclame brillamment son grand air. Elle tombera sur la route du Havre, antichambre de la déportation, avec les condamnés de droit commun vers la Nouvelle-Orléans. Comme Verdi et sa Violetta, Massenet aime et pardonne à cette Manon, à qui il donne sa meilleure inspiration. Par de très grands et très beaux airs, le monde découvert par une enfant en route, l'adieu à la petite table, les amours enfantines avec son chevalier, le couronnement public au cours de la reine, avant la charrette des dépravés. La prostituée ou l'archétype de la femme brisée dans le vacarme étourdissant d'une société de plaisir. L'opéra fait miroiter les séductions de la luxure, mais en fait, c'est peut-être pour mieux affirmer la domination de la morale. D'un certain point de vue, Tosca est de la même eau. elle vit d'art et d'amour. Peu lui importent les institutions dont elle refuse farouchement les impératifs. Tout autre est la Loulou d'Alban Berg. Je rappelle, tirée de la boîte de Pandore et de l'esprit de la terre de Frank Wedekind. On n'est plus à Paris, certains qualifient de libidineuse, mais à Vienne, la décadente, ensorcelante, scandaleuse, dévastatrice, très fortement sexuée, Loulou incarne l'image idéale de séduction. Espèce d'éternel féminin, sans doute fantasmé, qui rejoint la longue liste des femmes diaboliques et des tueuses. Les hommes tombent comme des mouches. Elle-même mourra sous le couteau violeur de Jack l'éventreur. Et sa vocalité est exacerbée, tour à tour violente, tourmentée. Elle est aux abords de l'abîme, elle frôle le cri dans l'élévation extrême de l'aigu, avec le risque d'une déflagration catastrophique. Comme l'écrit Michel Poisat dans La Voix du Diable, le lyrisme le plus épuré lui est donc dévolu. Mais cette sublimation angélique finit par se déchirer avec violence dans le cri de mort le plus terrible qui soit. Incarnation même de la voix comme enjeu de jouissance, elle en présente les deux pôles les plus extrêmes, parole pure d'un côté, cri pur de l'autre, dans l'ambivalence ange-démon qui la caractérise. Le XXe siècle verra les putains de l'entre-deux-guerres habiter naturellement le monde apocalyptique et sans rédemption de Kurzweil, dans l'opéra de Katsu, et surtout dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, dont le fameux Alabasong de Jenny et ses six Mädchen, consoeurs en prostitution, qui a fait le tour du monde grâce aux Doors et à David Bowie à la fin des années 70. Nous écoutons la version opéra. Version Bowie. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Quant au XXIe siècle, il a, via la pipolisation, comme a dit un journaliste, renoué avec les Traviata et les Manon des médias. C'est ce dont nous avons parlé, l'opéra Anna Nicole de Marc-Anthony Turnage. ce biopic lyrique monté en 2011 au Royal Opera House de Londres, d'après la vie et la mort de l'ancienne playmate de Playboy, Anna Nicole Smith. Comme les autres, perdant dans la vie, glorifiée dans la musique. Car à la différence de la peinture, de la littérature, du théâtre ou du cinéma, cela ne leur épargne aucune déchéance ou objection, la prostituée à l'opéra est transcendée par sa voix, sauvée par son chant, elle est bien nommée diva, dans une relation au sacré, peut-être même, qui s'inscrit au cœur de la réflexion philosophique ou religieuse. Chaque cantatrice est à la fois déesse et putain. Au-delà, l'histoire même de la femme sur une scène d'opéra est édifiante. Sans revenir au mythe des sirènes qui disqualifie la voix féminine, parce que c'est le registre de la séduction satanique ou de la dangerosité mortifère, son parcours est un chassé-croisé entre interdiction et tolérance. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'elle a été concurrencée par les castrats jusqu'aux confins du XVIIIe. Le XIXe, c'est l'avènement de la cantatrice, de la femme, dont la suprématie n'aura pas de fin. Les cantatrices s'octroient définitivement la plus grande part de l'espace lyrique. Au contraire des hommes, que, comme le dira Pascal Quignard dans la leçon de musique, un destin biologique a soumis au sein même de leur voix à être trahi. Les femmes naissent et meurent dans un soprano qui paraît indescriptible. Leur voix est un règne. Leur voix est un soleil qui ne meurt pas. Cela vaut bien la peine qu'on tapine et qu'on meure sur scène.